Le Talk Franchise.
Le magazine audio de l'officiel de la franchise.
Bonjour à tous et bienvenue à Franchise Expo Paris. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière journée, premier talk franchise de la matinée. Alors aujourd'hui, je suis Camille Boulat, journaliste pour l'officiel de la franchise. Et aujourd'hui, nous allons parler immobilier, un secteur qui a superformé depuis 2 ans maintenant. Et pour parler de ce secteur porteur, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Fritz, président du réseau Guy Hoquet. Éric Alouche, directeur exécutif du réseau ERA Immobilier.
Bonjour.
Et monsieur Frédéric Simon, président fondateur du réseau Kemex.
Bonjour.
Bonjour à tous les trois. Merci d'être à mes côtés ce matin. Première question toute simple. Je vais vous laisser vous présenter à tour de rôle et à présenter votre réseau et le maillage territorial en nombre d'agences. Stéphane.
Allô. Alors, Stéphane Fritz, je suis président du groupe Guy Hoquet. Guy Hoquet, c'est un réseau éponyme créé par son fondateur, monsieur Guy Hoquet, avec qui on est toujours en contact. C'est un réseau qui a 28 années aujourd'hui d'existence. C'est 580 agences et plus de 4000 collaborateurs sur le territoire national, mais également sur les départements et régions d'outre-mer. Nous sommes en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à La Réunion. Et voilà, c'est un réseau d'agences immobilières en franchise.
Éric, à vous.
Alors, Éric Alouche, réseau ERA Immobilier, donc directeur exécutif. Donc, ERA veut dire Electronic Realty Associates. Donc, électronique, vous savez ce que ça veut dire. Realty, c'est l'immobilier en anglais. Associates, c'est les associés. Le réseau a été créé aux États-Unis en 1972. Donc, cette année, nous fêtons nos 50 ans aux États-Unis du réseau. Donc, c'est un réseau international qui est présent aujourd'hui dans plus de 35 pays dans le monde. Donc ça va effectivement de l'Asie, en passant évidemment par les États-Unis, par dans de nombreux pays européens. En France, nous sommes environ actuellement 470 agences, mais ça change tous les jours, 470 agences ouvertes ou en cours d'ouverture, donc bientôt 500. Voilà, donc toute l'équipe ERA est dédiée au succès des gens qui nous rejoignent. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour.
Frédéric, même exercice.
Même exercice. Donc Frédéric Simon, j'ai créé le réseau Kemex Immobilier. C'est un réseau de centres d'affaires en immobilier. Donc c'était des infrastructures un petit peu plus grosses que les agences traditionnelles avec environ une centaine de collaborateurs dans une région pour couvrir une région, toujours en modèle de franchise. On a ouvert ce modèle de centre d'affaires il y a maintenant 3 ans et il y a à peu près 23 franchisés et 7 en cours d'ouverture, 23 centres d'ouvert, 7 en cours d'ouverture, 1000 collaborateurs sur le territoire national et on développe également la master franchise. On a déjà ouvert en Argentine et on est en train de le développer dans d'autres pays. Voilà.
Merci beaucoup pour cette présentation. On a vécu 2 ans assez particuliers. Votre secteur s'en est sorti haut la main et a surperformé. Comment vous analysez ces performances et comment vous voyez les prochains mois qui s'affichent devant nous, Stéphane?
Alors, sur les 2 années, on a subi, comme tout le monde, les 2 mois de fermeture et de Covid et l'arrivée assez brutale de cette pandémie. Donc, on a fait comme tout le monde, hein, on a resserré les rangs. Ce qu'on peut dire, c'est que le marché immobilier est un marché porteur et durablement porteur. Pour avoir vécu plusieurs crises, même s'il se contracte, sur 1 an, 2 ans, peut-être 3, il faut pouvoir tenir ces temps-là. Et ensuite, à chaque fois, ça repart, mais ça repart de plus belle. On a tous besoin de se loger. C'est un métier qui est sans... Il n'y a pas de non-consommateur. Tout le monde a besoin de se loger, locataire, bailleur, acheteur, vendeur. Donc c'est un marché durablement porteur et c'est aussi des temps d'achat sur... 7 ans les reventes, mais c'est aussi des temps d'achat sur 15 ans, 20 ans. Donc aujourd'hui, on est sur un marché très très fort. On pensait qu'on aurait un petit peu de mal à l'issue des 2 mois d'inactivité. Et il s'est passé tout l'inverse. Les projets se sont remis en place à la sortie du confinement. Les gens ont eu besoin de plus d'espace, de bureaux, de télétravail, toutes ces choses-là dont on parlera certainement aujourd'hui. Et du coup, non seulement on passe haut la main, mais on a surperformé 2020, 2021 et du même acabit. Et pour répondre à la question de comment on voit, bah déjà, on n'est pas devin. Donc, on a une visibilité à 3 à 6 mois. C'est notre visibilité aujourd'hui sur les chiffres qui sont les nôtres. Après, un retournement de marché, on peut le subir. Donc, ça, on ne sait pas le dire. D'accord. Donc, toutes les Cassandres annoncent des grandes crises majeures, un effondrement de l'immobilier. Ce n'est pas du tout ce qu'on voit. On a toujours une très forte dynamique en début d'année. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête.
Éric Alouche, plus d'1 million de transactions cette année.
Alors effectivement, plus quasiment 1 200 000 transactions. Donc là, on est un petit peu moins aux dernières statistiques, mais ça reste extrêmement important. Juste pour information, pendant la crise de 2008-2009, où effectivement il y avait la crise des subprimes, dont vous vous rappelez, on était tombé environ à 560 000 ventes. Donc vous voyez la différence entre les deux. Donc on est dans un secteur qui est vraiment porteur. Et effectivement, c'est très important de bien intégrer le fait que dans l'immobilier, c'est un secteur intemporel. Tout le monde a besoin de se loger. Vous soyez locataire ou propriétaire, vous avez toujours des raisons de se loger, de vous loger, des besoins de vous loger. Et en ce moment, effectivement, on vit une période d'embellie. Donc, c'est le moment d'en profiter. Juste pour information, je ne vais pas vous donner trop de chiffres, mais on était en 2015 à 2,6% de taux de rotation. Le taux de rotation, c'est le pourcentage de personnes qui changent d'habitation tous les ans. D'accord ? Actuellement, on est à 3,8%. Vous voyez, donc on a énormément de turnover, de gens qui veulent changer de logement, tout simplement parce qu'on a eu ce phénomène de volonté d'espace qui est dû au Covid, finalement, une réaction à toute cette situation où, anxiogène, où les gens où ils ont envie un peu d'ouverture, d'espace, d'aller à la campagne. Tout ça, ça a généré énormément de flux. Donc tout ça, c'est extrêmement positif. Alors, effectivement, on ne peut pas lire dans les boules de cristal, mais on est arrivé aujourd'hui à cette situation. Ce n'est pas par hasard, c'est parce que les taux sont très bas. Hein, et on vit une période exceptionnelle avec des taux qu'on n'avait jamais vus. Donc c'est une des raisons aussi qui permet à beaucoup de gens de soit d'accéder à la propriété ou soit effectivement d'acheter plus grand ou même d'investir dans l'immobilier. Hein. Donc ça, c'est extrêmement important. Et pour l'instant, on est toujours dans ces schémas-là, tout simplement parce qu'on a besoin de croissance et on va continuer à avoir besoin de croissance. Alors peut-être que ces taux vont monter un peu. Néanmoins, on est toujours dans une dynamique extrêmement positive de demande de l'immobilier. En plus, l'immobilier, c'est la sécurité. Et quand on vit dans des périodes un petit peu anxiogènes comme en ce moment, bah, qu'est-ce qu'on cherche ? La sécurité. Puisqu'aujourd'hui, les gens qui ont de l'argent, ils vont le mettre où ? Ils vont le mettre où ? La bourse, c'est pas évident. Hein, on voit les bruits de bottes un peu partout. On voit les risques. On voit Total, effectivement, avec les risques sur les matières premières, etc. On met où son argent ? Bah, on le met dans l'immobilier. Parce que l'immobilier, c'est sûr. On peut acheter effectivement des lingots d'or. Au bout d'un moment, quand on en a un certain nombre, il faut un peu diversifier, ses investissements. Donc l'immobilier est vraiment une valeur sûre. Créer son agence immobilière aujourd'hui reste une excellente opportunité. Et l'immobilier, l'avantage que ça a, c'est qu'à chaque fois, les cartes sont rebattues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de récurrence concernant un vendeur. Vous savez qu'aujourd'hui, vous vendez à quelqu'un, d'accord ? Demain, quelqu'un d'autre a quelque chose à vendre. Il n'y a pas de fidélité particulière. Tout est à refaire en permanence, voyez ? Alors évidemment, il y a l'enseigne, la notoriété, toutes ces choses-là. Mais on peut s'implanter sur une zone sans être connu, sur cette zone avec effectivement des concurrents qui sont présents et prendre des parts de marché assez rapidement. Nous le voyons régulièrement avec des gens qui sont tout à fait novices dans l'immobilier, qui démarrent, qui appliquent les méthodes qui fonctionnent. Hein. Nous sommes certifiés Bureau Veritas, on a un savoir-faire qui existe depuis 50 ans et on voit quand les méthodes sont appliquées, ça fonctionne. Voilà, je ne vais pas être trop long. Merci.
Frédéric Simon, ce dynamisme noté par vos confrères, est-ce que vous avez la même analyse ?
Oui, à 100%. Je partage complètement ce que dit Stéphane et Eric. Mais si on sort du monde de la transaction, je pense qu'il y a aussi une évolution de l'immobilier. C'est un métier qui est en pleine ébullition. On a vu naître des réseaux de mandataires qui se sont développés ces 15 dernières années. Au départ, où nous, traditionnels, on n'y croyait pas trop à cette forme de travail. Et finalement, il y a une évolution des mentalités. Le Covid a accéléré cette évolution des mentalités. Et aujourd'hui, il y a une approche métier dans l'immobilier qui commence à être variée avec finalement où chacun va y trouver son compte dans un ou un autre modèle. Pour parler de notre modèle qui est récent, le modèle de centre d'affaires en immobilier qui fait finalement un petit peu un mixte entre le monde traditionnel et les réseaux de mandataires où les négociateurs vont pouvoir travailler de manière totalement indépendante avec une infrastructure qui va former, accompagner les négociateurs. On voit que la mentalité des négociateurs à travailler dans l'immobilier est en train, ou des gens qui se reconvertissent, hein, c'est un métier qui séduit énormément, qui est en train de se structurer, s'industrialiser de plus en plus, se remettre en question de plus en plus. Donc il y a des évolutions sur ces 4, 5, 6, 7 dernières années. Ça évolue vite dans tous les sens, hein, dans le monde tradit, dans les réseaux de mandataires, dans les modèles de centres d'affaires. Nous, ce qu'on qu'on va faire dans un modèle de centre d'affaires, c'est qu'on va intégrer tous les métiers de l'immobilier. Donc on va intégrer le neuf, la gestion de patrimoine, le résidentiel, avec des contrats spécifiques de professionnels qui ne font que du résidentiel, que du pro ou que de la gestion de patrimoine, et de manière à porter une offre globale aux clients. Donc c'est un petit peu le centre Leclerc, enfin sans faire de pub, mais de la grande distrib ou le supermarché de l'immobilier. Et donc c'est aussi quelque chose que j'ai découvert en créant ce modèle. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de créateurs d'entreprises qui avaient envie de projets entrepreneuriaux plutôt orientés PME, puisque nous, en fait, c'est plutôt des PME qu'on crée, nos franchisés créent plutôt des PME avec finalement des projets régionaux. Et je pense que ce nouveau modèle a aussi été attendu par une partie des chefs d'entreprise en France qui voudraient créer des projets entrepreneuriaux plutôt régionaux que locaux. Voilà.
On le voit, le marché est dynamique. On voit qu'il y a des évolutions qui s'opèrent depuis quelques années et qui ont été accélérées par la crise de la Covid-19. Quelles évolutions en matière d'attente client, en matière de pratique, vous constatez sur le marché, Stéphane ?
Les start-upers qui sont arrivés, ou les néo-modèles, comme on les appelle aujourd'hui, sont arrivés avec souvent, ce dont parlait Frédéric, souvent le prix. Un marché, globalement, celui de l'immobilier vient d'être attaqué par le prix, par des start-upers, mais beaucoup de marchés ont été attaqués par le prix. Le prix, c'est une organisation. C'est-à-dire que Carrefour ne peut pas suivre Lidl, c'est impossible. Lidl est structuré pour faire du prix, et Carrefour est structuré pour faire du service. Donc il va y avoir cette scission aujourd'hui, puisqu'on a été attaqué par le prix. Ça tombe bien, on est sur un marché extrêmement vaste. Il va y avoir une scission entre le prix et moins de services, et le service d'abord, et le prix qui va avec. Donc aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se créer. Chacun trouve sa place dans ça. Nous, on est un réseau, vous savez, on est un des réseaux leaders aujourd'hui de l'immobilier en France. On reste malgré tout pas un leader, puisque un leader, c'est 30% de parts de marché. Je ne les ai pas. On fait 32 000 transactions. C'est 3% ou un peu moins de 3% de parts de marché. Et avec ça, on est leader. Moi, je cherche 6 personnes de plus ou 3 personnes de plus. Vous voyez, je ne cherche pas à contenter l'intégralité des gens. Donc, en revanche, nous et notre positionnement, et je rejoins assez ce que dit Frédéric, je pense que c'est un positionnement de service. Alors, nous, on ne fera pas quelqu'un au patrimoine, quelqu'un à la gestion, quelqu'un... Non, je pense qu'aujourd'hui, le collaborateur, il doit avoir une spécialité, une prépondérance sur un métier comme la transaction, par exemple. En revanche, il doit avoir un vernis sur la banque, sur l'assurance, sur le déménagement, sur les travaux. C'est un peu la multiservice qu'on a créée. C'est un petit peu ce à quoi nous croyons, parce que ça répond à votre question en termes de prospective. Où allons-nous et où emmenons-nous les nôtres? Ce sera justement sur du multiservice. On pense que la seule transaction demain, de dire à quelqu'un, la cuisine, comme il y a une cuisinière, ça doit être la cuisine, est là. Là, ici, il y a un lit, je suppose que c'est une chambre. Et prendre 10 000 balles, c'est un peu révolu, quoi. Je pense que ce temps-là est terminé. Donc aujourd'hui, l'attente client, et en tout cas, ce sera notre choix et notre positionnement, c'est d'aller vers plus de services.
Plus de services également chez ERA ?
Alors, plus de services, oui, le monde est en adaptation en permanence. Donc ce qui est certain, c'est qu'il faut bien regarder, il faut toujours s'adapter au monde qui évolue. On l'a vu pendant la crise du Covid, tout ça ne va pas s'arrêter, ça évolue en permanence. Donc plus de services, oui, bien évidemment. Alors nous, effectivement, comme on est d'origine américaine, on a un peu l'habitude des grandes organisations. Aux États-Unis, en moyenne, dans une agence ERA, vous avez une cinquantaine de collaborateurs. Alors, est-ce que ce modèle est adapté partout? On adapte ce modèle, le modèle ERA est adapté dans les pays où on est présent de manière différente. Mais ces modèles-là qui ont été décrits, on les maîtrise déjà, on les a déjà pratiqués. D'ailleurs, il y a des agences qui ont ce type de modèle chez ERA et qui fonctionnent avec ce concept multiservice. Chez ERA, on s'adapte au projet que vous voulez mener. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui souhaitent adopter ce projet de multiservice. Et puis, il y en a d'autres qui souhaitent avoir une agence de ville beaucoup plus modeste et se concentrer beaucoup plus sur l'immobilier. Donc, dans tous les cas, on est proche de nos franchisés, on s'adapte à eux. Et parce que je pense que c'est important, lorsque vous créez votre agence immobilière, que vous soyez accompagné dans votre projet, dans votre évolution, ça me paraît essentiel. Après, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le numérique, évidemment. On voit le numérique partout. Donc, le numérique, il ne faut pas oublier que c'est un outil. Ce qui fait la différence sur le terrain concrètement, c'est l'individu. C'est la confiance que va inspirer l'agent immobilier ou le collaborateur de l'agent immobilier vis-à-vis de la personne qui vend son bien immobilier. Donc ça, c'est essentiel. Il ne faut pas perdre de vue que ce métier, c'est un métier d'humain, n'est pas un métier numérique. Le numérique arrive en support. Après, ce qui a été dit sur le prix est exact, effectivement. Il faut choisir ce qu'on veut. L'essentiel est d'en avoir pour son argent. Si on va voir une agence délocalisée, virtuelle, je ne sais pas quoi, qui vous offre effectivement ou qui vous propose des honoraires au rabais, mais qu'est-ce qu'elle va vous donner en face? Il est certain que si vous faites rien, le prix, quel qu'il soit, peut être toujours trop élevé. Donc là aussi, il y a des différences d'approche, il y a des différences effectivement d'organisation, mais je pense que nous, en tout cas chez ERA, on est convaincus que le service continue à avoir énormément de possibilités, que les gens sont de plus en plus demandeurs, ils sont de plus en plus informés. Et ce qui fait la différence concrètement sur le terrain, c'est celui qui a le mandat ou celui qui ne l'a pas. Pour avoir le mandat, il faut inspirer cette confiance, il faut évidemment de la compétence, de la formation. Chez ERA, tous les collaborateurs ont une formation extrêmement poussée. On est certifié Calliope, qui est le plus haut niveau de certification. Bref, toutes ces choses-là, mis bout à bout, font qu'on voit les choses de manière extrêmement optimiste et on n'a pas peur de ces nouveaux modèles entre guillemets qui émergent, parce que petit à petit le ménage entre guillemets va se faire et comme disait Stéphane, il y a la place pour tous, hein, c'est pas vraiment un problème, voilà.
Justement, c'est un secteur extrêmement concurrentiel, vous êtes nombreux sur ce marché, notamment en franchise ou dans d'autres types de contrats. Frédéric Simon, je vous pose la question parce que vous êtes un petit poucet aujourd'hui, vous êtes un nouveau venu. Comment se différencier sur ce marché extrêmement concurrentiel?
Alors, oui, c'est vrai, on est un petit poucet, mais avec des grosses structures. Donc, en fait, on a deux thématiques là qui sont abordées. On a la thématique prix et on a la thématique service. La thématique prix... je ne vais pas rajouter quelque chose, je vais juste compléter. On est soit sur des marchés vendeurs, soit sur des marchés acquéreurs. Dans tous les cas, qu'on soit sur un marché acquéreur, ça veut dire que c'est l'acquéreur qui va plus ou moins fixer le prix. Donc le marché va être plutôt baissier et c'est effectivement en fonction de la période économique et des taux. Et quand on est sur un marché vendeur, bah, c'est les vendeurs qui vont plutôt et c'est ce qu'on a connu dernièrement et c'est pour ça que les prix ont augmenté. Donc la question c'est, est-ce que les prix demain vont être plutôt marché vendeur ou acquéreur? Quand on est des transactionnaires dans l'immobilier, j'ai envie de dire, nous, on s'en fiche un petit peu. Parce que finalement, quand quelqu'un achète, il revend. Et quand quelqu'un vend, rachète souvent. Donc finalement, les transactions se font et on voit bien que on a cette chance de travailler sur un secteur extrêmement protégé, privilégié. Ça, c'est pour le prix. Pour les services, donc nous, dans nos centres de petits poussets, on a donc en moyenne entre 800 et 1000 m² dans lequel on va trouver... des diagnostiqueurs immobiliers, des courtiers en prêt immobilier, des assureurs, des entreprises du bâtiment qui vont être comme dans un hypermarché ou un supermarché, mais plutôt hyper, on va trouver des entreprises qui, en plus des rayons du supermarché, vont être locataires de l'infrastructure. Nous, c'est notre cas. Donc, nos franchisés vont avoir 5, 6, 7, 8 locataires qui vont apporter une offre globale aux clients, que ce soit de la construction de maisons individuelles, du prêt, etc. Mais les clients acheteurs et vendeurs qui viennent dans notre centre viennent pour la transaction et vont bénéficier de tout cet écosystème permettant d'obtenir une offre globale où c'est ce qu'on appelle le one-stop shop. Et c'est pour ça qu'il nous faut des surfaces importantes puisque lorsqu'on a une centaine de commerciaux indépendants qui travaillent dans une infrastructure comme ça, eh bien, ça brasse beaucoup de clients. Nous, on a 500 nouveaux acquéreurs par mois en moyenne dans nos centres. Donc, ça brasse un petit peu.
Aujourd'hui, en matière de candidats, qu'est-ce qui fait qu'un candidat réussit? Quelles sont les compétences essentielles que vous recherchez chez les candidats? Est-ce qu'il faut être issu du secteur ou pas forcément, Stéphane Fritz?
On va avoir des questions-réponses après ou pas? J'ai peur de vous endormir à chaque fois avec nos discours vendeurs.
C'est ma dernière question et après on passe
les candidats. Les candidats, rapidement, on ne sait pas dire en franchise qui va être bon, qui ne va être pas bon. Ne pas être bon. C'est une question aujourd'hui, on cherche des compétences qui soient des compétences humaines, puisque les compétences techniques, on les amène. Enfin, un petit pousset, ERA ou nous, on a des centres de formation et on sait faire ça. Ça fait 28 ans qu'aujourd'hui, on forme des cadres en reconversion et qu'on en fait des agents immobiliers. Ce qu'on cherche, c'est des compétences déjà humaines. Après, avec la data qu'on a et l'antériorité qu'on a, on peut dire certaines choses. Globalement, des gens dont on sait qu'ils vont réussir, sont souvent issus de la grande distribution, la GMS, souvent de Leroy Merlin, Decathlon, Carrefour, je le dis et je le redis à chaque fois, sont des gens qui sont structurés, qui savent aujourd'hui gérer des unités de production, manager des gens, manager des chiffres. Donc souvent, ils ont déjà un peu d'aide au démarrage. Ensuite, après, on ne sait pas dire. Vous pouvez tous réussir dans l'immobilier à partir du moment où vous avez une envie forte. C'est ça le sujet. C'est vrai le sujet. C'est un vrai marché porteur. Et après, il faut choisir votre marque, bien la comparer et choisir votre marque. Il faut toutes les faire. Et ce que je peux dire aussi, une autre chose, une dernière chose, et j'arrêterai là. Le couple, ça fonctionne toujours. C'est-à-dire, et le couple, je ne parle pas d'un homme et d'une femme. Je parle d'un père et son fils, je parle de deux potes, deux nanas, enfin, peu importe. Deux personnes, ça fonctionne toujours. Parce que souvent, quand on monte un projet à deux, il y a toujours un qui gère le back-office, qui va tenir les comptes, et il y a toujours un peu le commerçant de la bande qui va aller chercher l'oseille. Donc c'est un peu ça. Donc ça, on sait que ça fonctionne toujours à deux mieux que tout seul, même si ça fonctionne bien évidemment tout seul. Et ensuite, des cadres de la grande distib, mais sinon... venez nous voir, c'est un vrai mariage, d'accord ? Donc c'est pas quelque chose, c'est la rencontre de deux volontés, la vôtre, la nôtre. Venez nous voir, posez-vous, allez voir tous les autres, et nous aussi on vous regardera parce qu'on prend pas tout le monde non plus. Et c'est un vrai vrai mariage. C'est pas un truc de vendeur, quoi. Voilà ce que je peux dire.
Éric Alouche, des choses à préciser sur les profils ?
Alors les profils, il y a pas vraiment en fait de profil. Parce qu'il y a des gens, des fois on est surpris, il y a des gens, on se dit, ils viennent de chez EDF, a priori chez EDF, on dit, ils sont plutôt à l'abri des clients, et on est surpris, parce que des fois on a des gens qui sont extrêmement performants. Donc je dirais, c'est moins un profil professionnel qu'un profil d'individu. Donc je dirais, pour être très, très, très court, très concret, il y a deux choses. Premièrement, il y a la motivation. Vous savez, la motivation, c'est celle qui fait qu'on a la niaque, pour dire les choses simplement, qu'on a envie. Qu'on passe par-dessus les choses, qu'on est prêt à travailler le dimanche, qu'on est prêt à s'investir, qu'on est prêt à aller à fond et qu'on a vraiment de l'énergie pour ça. Mais si on a de l'énergie et qu'effectivement derrière, on n'a pas les aptitudes, ça ne suffit pas parce que si vous avez une énergie, vous la dispersez, c'est pas ça qui va redonner l'efficacité. Donc la deuxième chose, pour être vraiment extrêmement basique, c'est effectivement les aptitudes. Et les aptitudes sont effectivement générales, comme le dit Stéphane, le fait de pouvoir gérer une équipe, le fait d'avoir du bon sens, de regarder les chiffres, d'avoir cette capacité aussi d'aller vers les gens. Cette capacité de communication, cette capacité d'inspirer confiance, tout ça c'est extrêmement important parce que demain, pour que ça fonctionne, il faudra gérer une équipe de collaborateurs. Ces collaborateurs, il faudra leur donner envie, il faudra les amener sur le terrain. Et il faudrait qu'ils aient envie de vous suivre, vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut avoir vraiment cette fibre humaine, cette fibre d'empathie. C'est le deuxième point. Alors, ce n'est pas uniquement ça, les aptitudes. Hein. C'est aussi, évidemment, pouvoir avoir la carte professionnelle dans une profession réglementée. C'est de bien préparer son projet, mais ça fait partie aussi des aptitudes. Donc, quand vous venez nous voir, on va regarder tout ça. On va regarder si vous avez déjà réfléchi à votre projet. Parce qu'une franchise, quelle qu'elle soit, c'est jamais une béquille. C'est jamais quelque chose qui va se substituer à vous. Il faut bien comprendre ça. C'est vous qui allez faire le boulot sur le terrain. Par contre, notre travail, c'est de vous accompagner. C'est de vous permettre d'optimiser votre potentiel, puisque la franchise est un accélérateur de compétences, un accélérateur d'efficacité. Vous allez monter plus vite et vous allez monter plus haut. Mais c'est vous qui allez faire le travail sur le terrain. Évidemment, avec notre assistance, tout simplement parce que déjà, les gens qui ont eu le courage de créer leur entreprise, et c'est louable, pour ce qui nous concerne chez ERA, on a énormément de respect pour les entrepreneurs. Donc le premier point, on doit vous accompagner et soyez sûr qu'on va vous accompagner le mieux possible. Notre organisation, nos 12 consultants sur le terrain sont là uniquement pour ça, uniquement pour former les équipes, les aider à être performants, les aider à recruter, à motiver toute l'équipe, toutes vos équipes en permanence, parce que c'est un métier difficile. Quand on va sur le terrain, quand on est en prospection, des fois, on n'a pas forcément envie d'aller frapper aux portes, d'aller voir des gens. Bon, des fois, on se fait bien accueillir, des fois, on se fait un peu moins bien accueillir. Donc tout ça, il faut entretenir une motivation permanente, une envie. Et ça, un réseau vous le donne en principe. En tout cas, notre réseau, ce qu'on essaie de faire, on essaie de faire ça pour que vos équipes soient heureuses de travailler avec vous, parce qu'elles vont travailler avec vous très souvent, surtout si elles ont un statut d'agent commercial, qui est un statut d'indépendant. Elles vont travailler avec vous, elles ne vont pas travailler pour vous. Vous voyez la différence ? C'est-à-dire qu'il faut en même temps que les gens ont envie d'être dans ce réseau. Et donc, c'est important que chacun s'identifie Et quand au réseau et chez ERA, souvent quand on interviewe les négociateurs, ils disent bah, ERA c'est qui? Bah, ERA c'est moi. Vous voyez. Donc ça c'est excellent parce que ça veut dire que chacun s'approprie le réseau et va puiser cette motivation qui est essentielle dans ce métier.
Voilà. Frédéric Simon, je vous voyais acquiescer sur l'envie et la motivation. C'est également un moteur essentiel pour Kemex.
Je pense que toutes les marques ici présentes ont un véritable savoir-faire et savent accompagner leurs candidats à la franchise sans aucun problème. Je rejoins mes confrères, c'est que ce qui compte, c'est l'homme, c'est l'humain et c'est le savoir-être. Et le savoir-être, ça va être 80% de votre réussite dans votre projet entrepreneurial. Alors le savoir-être, c'est quoi? C'est finalement, quand on est patron, chez Kemex, c'est d'être un manager, d'aimer les gens et de leur donner envie d'avoir envie, comme disait notre ami Johnny. Et comme je sais que Stéphane est un très bon chanteur, il va s'apprêter à chanter une chanson de Johnny. Non, donc c'est vraiment la qualité d'un franchisé, c'est de fédérer, de manager, d'animer, de motiver, de structurer avec les méthodes et le savoir-faire qu'on lui dispense pour que les gens qui travaillent dans son centre aient envie d'être contents le matin de venir pour progresser, se remettre en question et délivrer le service et travailler dans l'immobilier, parce qu'il faut quand même qu'on dise une chose. On a la chance de faire un très très beau métier. On a la chance de faire un métier où il y a de la marge, donc c'est une chance, mais c'est un métier surtout d'humain, où on va partager des projets de vie très importants des gens et qui vont nous confier une responsabilité importante. Et donc on a la chance de pouvoir travailler dans un très beau métier. Et donc faut qu'on transmette ces énergies positives, qu'on élimine le négatif. En ce moment, on en a beaucoup de négatifs. On n'a pas besoin de se polluer dans le travail avec du négatif et qu'on reste focus sur le collectif, sur la positive attitude. Et puis, le reste, ça roule.
Merci beaucoup à tous les trois. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions globales, spécifiques à une enseigne? On vous écoute.
Et même des trucs qui piquent.
Une chanson.
Aucune question?
Peut-être si je peux me permettre, juste pour un peu savoir qui ici a un projet de création d'agence immobilière ou envisage de créer une agence immobilière? Est-ce que vous voulez bien me répondre? Voilà. Bon, alors c'est bien.
Il y a deux sujets. Il y a la franchise et l'immobilier. On peut vous répondre sur les deux. Hein. Donc, voilà. Si même vous avez d'autres projets et qu'on parle de franchise, on peut aussi vous répondre sur les équilibres de contrat.
Exact. Parce que c'est important de bien intégrer le fait que le secteur de l'immobilier, on l'a tous dit, on est tous d'accord là-dessus, est un secteur extrêmement porteur. Et c'est pas parce qu'on le dit, c'est parce que c'est une réalité. Vous avez une question, monsieur?
Oui, j'ai une question sur la transparence des prix. Une nouvelle réglementation qui serait en cours ou qui est déjà en cours, je ne sais pas. Sur le risque pour vous d'avoir des prix, des commissions qui évoluent vers le bas, si j'ai bien compris. Si vous pouvez nous en parler.
La transparence des prix, on la pratique depuis 30 ans déjà. Donc aujourd'hui, la loi Hoguet, enfin même 50, la loi Hoguet, elle vient régir ça. Donc ce n'est pas une nouveauté pour nous, la transparence des prix. On est obligé d'afficher nos honoraires, on est réglementé, on est un métier réglementé. Un métier réglementé, qu'est-ce que c'est la loi Hoguet? Elle a été faite par le législateur pour protéger le consommateur et obliger le professionnel. Donc ça, on est déjà dans ce règle-là. Donc aujourd'hui, cette transparence-là, l'évolution aujourd'hui des lois en ce sens, elle nous va bien à nous, hein, puisqu'on sait déjà faire. Hein.
Oui, c'est pas forcément le terme transparence approprié dans votre question. C'est plus comment va-t-on s'adapter suite à la nouvelle loi qui permet aux négociateurs finalement ou à l'agent immobilier de négocier ses honoraires un petit peu comme il le souhaite. Donc c'est un nouveau... ça change, on est une profession qui change et qui s'adapte en permanence en fonction des lois. Tous les ans, presque tous les deux ans, ça change. Dernièrement, qu'est-ce que on devait respecter notre barème et appliquer le barème. Et aujourd'hui, il y a une tolérance pour faire de la négociation. Donc on va s'adapter, mais en termes de transparence, on a toujours les affichages et la communication.
Voilà. Alors juste un petit détail là-dessus. Je pense que c'est à ça... c'est de ça dont vous parlez, hein, monsieur, le fait qu'il y ait cette nouvelle réglementation qui permet aux professionnels de baisser leurs honoraires qui sont affichés, puisque jusqu'à présent, quand les honoraires étaient affichés, on était obligé quelque part, en théorie, de les respecter, mais en pratique, ce n'était pas le cas. Donc cette nouvelle réglementation a pour avantage de dire, écoutez, on peut très bien baisser les honoraires et on reste dans la légalité. Voilà. Alors après, vous savez, ce qui reste sur le terrain, c'est la compétence, c'est le fait que les gens soient contents de payer des honoraires. Si effectivement on a des honoraires au rabais, déjà, ça veut dire que le professionnel, il va moins gagner sa vie, donc le ménage va se faire. Et c'était déjà le cas avant, puisque les honoraires étaient déjà parfois baissés par rapport au barème. Et il y avait une tolérance, d'ailleurs, de l'administration fiscale à ce sujet-là. Donc finalement, cette histoire, c'est un petit peu un non-événement, sachant que quand on explique bien les honoraires, parce que c'est ça la clé, en fait, il faut que la personne qui va payer les honoraires comprenne pourquoi elle paye les honoraires. Il ne s'agisse pas uniquement d'être un porte-clés de quelqu'un qui va faire visiter un bien et prendre des honoraires. Il faut que les gens comprennent que c'est un vrai travail derrière. Et ça, vous l'avez, parce que effectivement, dans un réseau, on explique tout ça. Lorsqu'on prend le mandat, lorsqu'on obtient le mandat, on explique tout le processus de la vente. Donc c'est un non-événement. J'espère vous avoir répondu. Voilà.
Je suis d'accord avec Frédéric. C'est pas moi. Du coup, je réponds pas à la question parce que la question, je réponds à la question de la transparence. Je réponds pas à la question de la nouvelle législation. La nouvelle législation, on pourrait l'appeler le décret IAD, parce qu'en fait, il y a 40 000 mandataires aujourd'hui qui sont sur une seule carte T. Et je suis pas d'accord avec Eric. On respecte nous parce qu'une carte T, 5 ou 6 collaborateurs, on respecte aujourd'hui les baisses d'honoraires et on refait des mandats conformes au compromis. Donc on respecte la loi. En revanche, celui qui ne respectait pas la loi, c'est celui qui a une carte à l'autre bout de la France avec 1500 ou 15 000 personnes où tout le monde fait ce qu'il veut. Et c'est ça qui a été aujourd'hui condamné par Orpi, notamment, qui a soulevé le problème. Et on a eu jurisprudence sur ça. Et un décret est arrivé derrière. Et alors, enfin, pour répondre à votre question...
Non, mais on est d'accord, Stéphane. Stéphane, on est d'accord sur les mandataires. Nous aussi, on respecte nos honoraires. Hein. Le but, c'est pas de baisser les honoraires.
C'est très bien qu'ils puissent le faire.
Mais effectivement, on avait un peu des cow-boys. Alors, je suis un peu brutal, mais on a des cow-boys un peu qui travaillent un peu partout, qui sont soumis normalement à un barème unique, qui est celui de l'agent immobilier. C'est la réglementation normale. Et qui ont individuellement des barèmes personnels, donc ce qui est totalement illégal et ce qui a été sanctionné par les tribunaux, comme disait Stéphane. Voilà. Et donc il y a cette nouvelle réglementation qui finalement a peu d'importance, parce que évidemment on maintient nos honoraires. Ceci dit, parfois on peut être confronté à des situations où il faut effectivement s'adapter aux circonstances.
L'intermédiation existait, existe et existera toujours. Et les parts de marché des professionnels se développent. Aujourd'hui, on est passé de 50 à 65%, je crois, de parts de marché. Donc, et on va gentiment aller vers du 70-80% au fur et à mesure des années. Donc on a un bel avenir devant nous, quels que soient les services et les commissions pratiquées.
Merci beaucoup pour ces explications très claires sur cette thématique des honoraires et de la transparence des prix. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ?
On a beaucoup parlé de tarifs versus les services qui peuvent être proposés. Très concrètement, pour vous, quels sont les services supplémentaires qui sont apportés par rapport à une entreprise qui essaie de prendre des clients avec un rabais au niveau des coûts ?
Les services apportés principaux sont les deux principaux, on va dire, la banque et l'assurance, en premier lieu. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'accompagner son client. On va faire un parallèle à ce qu'était l'automobile il y a une cinquantaine d'années. L'automobile, pour les plus jeunes, vous achetiez votre voiture, vous mettiez l'autoradio, vous alliez chercher le crédit, vous alliez chercher l'assurance. Ça se faisait globalement. Aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un fait ça ? Non, aujourd'hui, une bagnole, ça coûte 392 euros. Ça coûte 450 euros par mois. Ça ne coûte plus que ça. Et évidemment, sont intégrés dans les services aujourd'hui d'un concessionnaire, l'assurance, vous avez même les réparations, vous avez la vie de l'entreprise. Enfin, la voiture, elle vous est prise, c'est clé en main, et à la fin, vous la rendez, vous en reprenez une autre pour la même mensualité. Je pense que l'immobilier tendra vers ça dans un temps long, tendra vers ça aujourd'hui. On ramènera très certainement, à mon avis, des biens immobiliers à des mensualités, puisque les taux de rotation, même si on achète sur 25 ans, sont souvent de 6 ou 7 ans. D'accord ? Donc je pense qu'on commencera vers ça. Et donc en premier lieu, pour répondre très clairement à votre question, les premiers services sont l'assurance et la banque. Et puis demain, après, on peut imaginer un tout petit peu tout, c'est-à-dire la gestion de patrimoine, la gestion d'actifs. Enfin voilà, on peut éventuellement aller vers beaucoup de choses. Le déménagement. Aujourd'hui, on fait déjà, nous, avec nos accords, on déménage déjà tous vos abonnements, l'intégralité de vos abonnements. Donc voilà, moi, si je formule un rêve, je veux qu'on inscrive les enfants à l'école, quoi. C'est ça, la notion de service. Mais en premier lieu et tout de suite, la banque et l'assurance.
Oui, alors pour compléter un petit peu tout ça, en fait, c'est tous les services qui tournent autour du projet immobilier. Donc vous avez un projet immobilier, bah forcément vous avez besoin de tout ce qui tourne autour, que ce soit pour la réalisation de votre projet lui-même, avec effectivement le financement, avec tout ce qui est diagnostic, avec toutes ces choses-là, sachant qu'un agent immobilier doit se concentrer sur son travail. Il ne peut pas en même temps faire les deux choses, parce que sinon ça voudrait dire qu'il est jugé parti. Néanmoins, il vous donne des informations, il vous aide, il doit aider le client à trouver ce dont il a besoin pour réaliser ce projet. Donc tout ce qui tourne autour, effectivement, le déménagement, bref, ça peut même être peut-être des propositions ou des avantages que vous avez dans certains magasins, parce qu'on sait que le bricolage est important, hein, il faut savoir se débrouiller. Souvent, on a des petits travaux à faire quand on achète un bien immobilier. Donc ça peut être ça. Alors effectivement, il y a des cartes de fidélité, des réductions, etc. Donc c'est tout ce qu'il y a autour de ça qui, effectivement, est le bienvenu pour le projet immobilier. Mais il ne faut pas oublier quand même que l'essentiel, c'est quand même la vente de l'immobilier, c'est quand même le bien au bon prix, c'est d'expliquer la prestation de l'agent immobilier, c'est d'expliquer comment on arrive au prix qui a été déterminé, comment on arrive à l'estimation. Il ne faut pas perdre de vue quand même ce travail, ce premier travail, ce travail numéro un de la part du professionnel de l'immobilier. Après, évidemment, la périphérie est importante, mais il ne faut pas oublier que c'est une périphérie.
Est-ce qu'il y a une dernière question ? Non ? Parfait. C'est que nos interlocuteurs et nos invités ont été très clairs. Merci beaucoup encore à tous les trois d'avoir été à mes côtés. Merci à tous dans la salle et je vous souhaite une bonne fin de salon Franchise Expo Paris.
Le Talk Franchise. Le magazine audio de l'officiel de la franchise.